Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Alain Minc.
Bonjour.
Une transformation historique, c'est ainsi qu'Emmanuel Macron a qualifié avant-hier sa réforme du système de retraite. Réforme historique vraiment, ou bien c'est une façon de justifier ou de revendiquer le conflit ?
Non, c'est une réforme historique. C'est la plus grande réforme sociale depuis 1945. Mais c'est tout le problème. Je pense que par rapport à une réforme de cette ampleur, il est très difficile de la faire sans partenaires sociaux. Alors, la France étant ce qu'elle est, on ne peut pas avoir tous les partenaires sociaux à bord, mais on ne peut pas se permettre de rater le soutien des syndicats réformistes. Mais si vous me permettez une parenthèse, parce que je crois qu'on ne le dit pas assez, la bonne nouvelle de tout cela, c'est le retour en scène des syndicats. C'est-à-dire que un pays a besoin de contre-pouvoirs organisés, et je préfère de beaucoup la radicalité de Philippe Martinez à la radicalité des gilets jaunes qu'on voyait sur tous les plateaux de télé il y a un an. Et j'y pensais en regardant un des énièmes débats. Quand on pense à la qualité des débats sur les retraites par rapport aux propos les plus vagues, les plus violents, les plus Fouquier-Tinville qu'on entendait il y a un an, vive les syndicats.
La qualité du débat sur les retraites, dites-vous à la main qu'il y a quand même eu beaucoup d'infox,
comme
on essaie de dire en français, ou de fake news dans ce débat.
C'est très compliqué, mais chacun tient un propos cohérent par rapport à ses propres objectifs. Donc je pense que de ce point de vue, c'est bon pour la démocratie sociale française. Reste que je pense que le Premier ministre a fait une erreur majeure. Quand vous voulez avoir un partenaire et qu'il vous dit « c'est ma ligne rouge », vous ne commencez pas par transgresser cette ligne rouge.
Mais est-ce qu'il n'a pas cherché délibérément le conflit ? Parce qu'il le savait avant, ça avait été fixé, cette ligne rouge. Qu'il allait braquer les syndicats réformistes comme la CFDT.
Je ne comprends pas ce choix. Surtout qu'on est en train de se battre, à propos de l'âge pivot, sur quelque chose dont il faut prendre la mesure. D'abord, l'âge pivot, c'est une incitation. Donc, connaître les effets exacts de cette incitation sur le rétablissement des comptes, c'est plus qu'incertain. Deuxièmement, il faut avoir les montants en tête. Aujourd'hui, le budget de l'État, stricto sensu, c'est 400 milliards d'euros. Le déficit de l'État, c'est 100 milliards d'euros. Le budget des retraites, c'est entre 300 et 400 milliards, 350 disons. Et on parle d'un hypothétique déficit de 10 milliards à 17, venant d'un organisme, le corps, qui avait prédit l'équilibre il y a quelques mois. Donc tout ça est vagouillard. Bon. Donc on sait bien qu'il y a un problème, mais c'est un problème de taille mesurée, comparé à l'État, et c'est un problème qu'on peut traiter le moment venu. Ouais. La bonne réponse, la seule réponse me paraîtrait être de retirer à ce stade l'âge pivot, au moins pour les gens qui vont prendre la retraite dans l'ancien système, car il y a deux cas de figure très différents. Il y a les gens qui vont prendre la retraite dans l'ancien système, et là, on leur impose une contrainte. Et puis, il y a ceux qui entreront dans le nouveau système. Et puis, de se donner rendez-vous à l'automne 22, une fois la présidentielle passée, entre partenaires sociaux et État, pour trouver les moyens de résorber le déficit, si déficit il y a.
Je suis assez surpris de vous entendre, vous, Alain Minc, expliquer qu'il faut s'affranchir des questions d'équilibre financier pour notre système de retraite.
Non, je ne vous ai pas dit ça. faites pas de l'intox. Je vous ai dit, il faut proportionner l'enjeu. Et ensuite, il faut mesurer qu'on se bat sur quelque chose dont on ne connaît pas l'incidence. Peut-être que l'âge pivot ne provoquera aucune diminution du déficit. Peut-être qu'il en provoquera une. Et puis, je pense qu'il y a un moment où il faut savoir écarter. D'ailleurs, le ministre du Budget a dit, je trouve très drôlement, il ne faut pas être stupidement budgétaire en ce moment.
Oui.
Eh bien, je pense
que Gérald Darmanin. Tout de même, vous avez été, vous, le premier à la main qui a proposé la clause du grand-père. C'est vous, d'ailleurs, qui avez inventé cette formule ?
Ah non, alors, parce que moi, je sais d'où vient cette expression. Elle vient de Wall Street. Donc, il ne serait pas venu à l'idée d'utiliser une expression de la finance américaine pour ce débat. Non, le mot a été mis dans le débat par ceux qui ne voulaient pas envisager cette solution-là.
Ouais. Bon, il aurait été plus juste d'appeler ça la clause du petit-fils, d'ailleurs.
Non, c'est tout simplement qu'on appliquait le système aux gens qui arrivaient sur le marché du travail.
Ouais, mais
c'est compréhensible.
Ça veut dire
moi, je pense qu'il fallait le faire comme ça. Mais maintenant, le gouvernement a choisi une autre voie.
Mais ça aurait voulu dire qu'on planifie une réforme prévue pour s'appliquer dans 40 ou 45 ans.
Mais de toute façon, là, on en est à 20.
Oui.
On en est à 20. Alors vous allez me dire entre 20 et 40. Mais ça, c'est fini. Le gouvernement a choisi, et en partie, il a choisi parce que la CFDT voulait aller plus vite. Donc, à partir du moment où il est entré dans la logique de la CFDT, c'est pas la peine après de lui donner une paire de baffes.
Bon. Et donc, comment on en sort maintenant? Parce qu'on est sur des positions figées qui paraissent irréconciliables. Si vous lisez Laurent Berger ce matin en JDD, il faut retirer l'âge d'équilibre, un point c'est tout, c'est ce que vous dites. Bon, on ne voit pas bien comment sortir de ce chaos. Vous pensez vraiment que le gouvernement peut revenir complètement sur cette position d'âge pivot?
Dieu sait si j'ai de l'affection et de l'estime pour Alain Juppé. En 1995, il a fait le retrait des régimes spéciaux à l'époque. Il n'en est pas mort, son gouvernement n'en est pas mort. Je veux dire, il ne faut pas se dresser dans une position rigide. Parce que le Premier ministre, s'il ne veut pas lâcher sur l'âge pivot, se met lui-même dans une situation extrêmement difficile. Je pense qu'il doit reculer, ou sinon il se met en risque.
Alain Minc, on marque une pause avant de poursuivre cet entretien.
Europe 1. De 9h à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé demain.
Avec Alain Minc, soutien critique d'Emmanuel Macron, du moins on vient d'entendre...
Soutien ardent, donc avec ma liberté de parole.
Ouais, mais on vient d'entendre vos critiques. En gros, vous accusez le pouvoir de créer du conflit pour des raisons politiques.
Non, j'estime pas là. Je pense que le gouvernement, d'ailleurs... Le gouvernement est en première ligne, pas le président de la République, qui prend un recul que les institutions appellent pour avoir sa propre liberté vis-à-vis du gouvernement si besoin est. Oui. Je pense que le gouvernement a fait une erreur. Point final.
Oui. Chacun sait qu'Emmanuel Macron a participé à la décision et à l'arbitrage en faveur de l'âge pivot.
Oui, mais ça, c'est le mérite de la 5e République. C'est que je l'ai dit sur une antenne concurrente de la vôtre. En fait, quand tout va bien, le Premier ministre est un collaborateur, comme l'avait dit sagacement Nicolas Sarkozy. Quand tout va mal, le Premier ministre est un bouclier. C'est la phase dans laquelle on est. Quand tout va très très mal, le Premier ministre est un fusible. Ce n'est pas la phase encore dans laquelle on est.
Pourquoi refusez-vous de dire que c'est un calcul politique et une question de stratégie politique?
Parce que je ne vois pas très bien ce calcul politique. Le genre de raisonnement que je lis de ci, de là, pour former ou renforcer la base de droit d'Emmanuel Macron pour 2022. Mais 2022, c'est l'éternité. Je veux dire, vous savez très bien que ce genre de calcul politique, à une telle échéance, n'a aucun sens. Donc je ne crois pas du tout. Je pense que les concepteurs du système, d'une certaine manière, ont un côté, entre guillemets, bâtisseur de cathédrale, et que l'idée d'enlever une ogive à leur cathédrale leur coûte beaucoup. Il faut mesurer ce que c'est les enchaînements, les nuits passées à travailler, des tas de gens qui pensent qu'ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Et donc, il y a un moment où vous n'avez plus, je crois, de totale liberté de penser par rapport à ce que vous êtes en train de faire.
Il y a une forme d'amateurisme ?
Pas maintenant. Il y a eu une forme d'amateurisme. Ça, c'est clair. Il y a eu des allers-retours tellement nombreux, avec tellement de positions, que ça a créé un grand flou, puisque le mouvement social a commencé contre une réforme dont on ne connaissait pas les contours. Là, je ne crois pas du tout. Le discours du Premier ministre, à mon avis, si vous enlevez cette histoire fuligineuse de l'âge pivot, est un remarquable discours. Je veux dire, la justification qu'il a donnée de cette réforme était très bienvenue, car c'est une réforme intelligente, et c'est une réforme incroyablement ambitieuse, mais qui correspond au mode de travail dans lequel les gens vont vivre dans les décennies qui viennent. Donc, ce n'est pas du tout, de ce point de vue, un acte amateur, c'est un faux pas.
Bon, quelles que soient les raisons de ce faux pas ou des décisions qui ont pu ou des propos qui ont pu être tenus dans le passé, on est aujourd'hui, le résultat est là, on est aujourd'hui avec un pays à un niveau de tension, de crispation, d'invective, sans doute jamais atteint par le passé.
Vous n'en êtes pas sûr. Hein.
Ah oui,
vous croyez ? Je pense que la tension est terrible pour les gens qui font des heures et des heures, mais je trouve justement, et je suis admiratif, du calme relatif dans lequel ceci se passe.
Oui, dans ma réflexion, j'incluais aussi la séquence Gilets jaunes aussi à la main.
Laquelle ? Celle d'il y a un an ?
Oui.
Non. Non, mais ça, c'est un tout autre sujet. Je veux dire. La séquence Gilets jaunes, c'était la révolte anarchiste de la France oubliée. Bon. Là, on est dans un univers tout à fait différent. Ce n'est pas la France oubliée. Ce sont des gens qui ont un travail. Ils ont des organisations syndicales. On est dans quelque chose de beaucoup plus... Et c'est en ça que c'est plus rassurant. Les gilets jaunes, c'était imprévisible. Il n'y avait pas de leader. Les propos étaient inconséquents. La violence était hallucinante. Ce n'est pas dans les piquets de grève de la CGT que vous verrez les petites guillotines en carton qui convoyaient sur les ronds-points. Je veux dire, il n'y a pas de comparaison. La violence, aujourd'hui, est beaucoup, beaucoup plus faible qu'elle ne l'a été il y a un an. Il y a un an, la France a vacillé et elle était inquiétante. Là, elle a un problème grave à régler. Ce n'est pas de même nature.
La violence a baissé, mais pas le niveau de défiance à l'égard du pouvoir et des institutions en général. Un niveau de détestation aussi d'Emmanuel Macron et des élites en général, sans doute jamais vu dans une partie de la population. Vous n'êtes pas d'accord ?
Eh bien, la différence entre les Gilets jaunes et le mouvement actuel, c'est que je n'ai entendu aucun leader syndical s'en prendre avec une violence assassine aux élites, s'en prendre au pouvoir, demander la démission d'Emmanuel Macron. De ce point de vue, la CGT, la première, vieille tradition communiste et respectueuse des institutions en place. Donc, il y a une immense différence entre ce qu'on a connu il y a un an et ce qu'on connaît de ce point de vue-là aujourd'hui.
On a quand même entendu des slogans très hostiles dans les manifestations, des scènes d'hostilité à la base, sur des piquets de grève ou dans les dépôts de bus. On a vu ces vidéos.
Je pense bien sûr qu'il y a des incidents de ce type, mais est-ce que vous avez vu dans les piquets de grève des gens dire mort à Macron ? Non. Est-ce que vous avez vu des gens demander sa démission ? Non. Alors évidemment qu'ils sont en grand désaccord avec lui, mais on est dans un conflit codé. Et je pense que ce serait une énorme erreur de l'assimiler au désordre qu'on a connu il y a un an.
Qu'est-ce qui permettra à la main qu'à vos yeux et à l'heure du bilan de dire qu'Emmanuel Macron a réussi ou échoué ?
D'abord, je pense que ce qui me permettra de dire qu'il a réussi, c'est est-ce que la croissance économique est bonne, enfin par rapport aux autres ? Est-ce que la courbe du chômage a baissé ? Et est-ce que, grosso modo, la France est devenue, aux yeux du monde entier, plus attractive et plus normale ? De ce point de vue, on est dans une situation plutôt encourageante. Le chômage baisse. La croissance française est une des meilleures de l'Union européenne et le monde entier qui nous voit passer l'excès d'énervement actuel sans drame pense quand même qu'on est un des pays, voire le pays le plus stable aujourd'hui d'Europe politiquement. Voilà, mais la politique, ça ne se ramène pas à un bilan rationnel. Mais ne vous inquiétez pas, il sera réélu.
Ah, vous en êtes certain ?
Je suis plutôt très confiant et... Il sera aussi réélu parce qu'il risque d'avoir en face de lui une adversaire qui demeure radioactive.
Un mot enfin à la main sur le sujet qu'on va aborder dans un instant avec Peter Ricketts, le triomphe de Boris Johnson sur sa promesse de mettre en œuvre enfin le Brexit. Ça vous inspire quoi ?
C'est une immense tristesse, mais de toute façon, on y était. Deuxièmement, comme Johnson est un type intelligent, je pense que maintenant qu'il a une large majorité, il va négocier un Brexit doux. Il va essayer d'être fidèle à une phrase qu'il a dite, qui est « Je quitte l'Union européenne, mais je ne quitte pas l'Europe ». Et je pense de ce point de vue-là qu'il serait extrêmement important de renforcer les liens entre la Grande-Bretagne et la France, déjà très significatifs en matière de défense, de services secrets, de diplomatie, de présence à l'ONU. Il y a pour nous, parce qu'on a des liens avec la Grande-Bretagne, une nature différente de nos partenaires, il y a pour nous et pour eux un espace particulier à cultiver. Et je suis assez convaincu que Johnson le fera.
Merci beaucoup Alain Minc d'être venu ce matin au micro d'Europe 1.